Je vous dis bonjour. On va lire aujourd'hui beaucoup plus que d'habitude. On va lire un chapitre entier et encore un peu plus qu'un chapitre entier. Nous lirons dans le livre des Actes des Apôtres. Nous allons lire la fin du chapitre 15 et tout le chapitre 16. On va commencer la lecture au verset 36 du chapitre 15. C'est à cet endroit-là que commence le deuxième voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Il avait fini son premier voyage. Il était allé à Jérusalem, il a raconté ce qui s'était passé. Et puis, nous lirons la suite. Nous allons d'abord prier. Seigneur, nous voulons faire notre la prière du psalmiste. Seigneur, ouvre nos yeux pour comprendre les merveilles que contient ta loi. Aide-nous, Seigneur, à comprendre et à mettre en pratique. Amen. Donc je commence au verset 36. C'est le début du second voyage missionnaire. Quelques jours après, Paul dit à Barnabas, « Retournons les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir où ils en sont. » Ça, c'est le travail de suite, hein. Barnabas voulait prendre aussi avec eux Jean, surnommé Marc. Mais Paul estima ne pas devoir prendre avec eux celui qui s'était détourné d'eux depuis la Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans leur œuvre. Le dissentiment fut si aigre que finalement ils se séparèrent. Barnabas prit Marc avec lui et s'embarqua pour Chypre. Paul choisit Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il traversa la Syrie et la Cilicie en affermissant les églises. Il parvint ensuite à Derbe et à Lystre, et voici qu'il y avait là un disciple du nom de Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Iconium rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui. Il le prit donc et le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il transmettait les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem afin qu'on les observe. Ces décisions, vous pouvez les lire dans le chapitre 15, le chapitre précédent. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Alors, chaque fois que j'ai lu les deux versets suivants, j'ai tiqué. Empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils tentèrent d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien debout le suppliait en disant, « Passe en Macédoine, viens à notre secours. » Après cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que Dieu nous appelait à y annoncer l'Évangile. Donc à cet endroit, jusqu'à ce moment-là, l'Évangile s'était concentré en Israël et puis au nord, la Syrie, ce qu'on appelle l'Asie mineure. Et à partir de ce moment-là, l'Évangile va changer de continent. À partir de ce moment-là, l'Évangile va débarquer en Europe et en Grèce plus précisément. Embarqués à Troas, nous avons fait voile directement vers Samothrace et le lendemain vers Néapolis. De là, nous sommes allés à Philippe, qui est la première ville de ce district de Macédoine, une colonie romaine. Nous avons séjourné quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Après nous être assis, nous avons parlé aux femmes qui étaient réunies. Il y avait là une femme craignant Dieu, du nom de Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire. Elle écoutait et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle s'attache à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous invita en disant « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa très instamment. Nous reviendrons longuement par la suite sur ces deux versets 14 et 15 que nous venons de lire. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, par ses divinations, procurait un grand profit à ses maîtres, vint à notre rencontre. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, et criait « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante qui voyaient disparaître l'espoir de leur profit saisirent Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique vers les magistrats. Ils les emmenèrent aux prêteurs. Les prêteurs, ce sont les principaux magistrats. Il y a une hiérarchie dans la magistrature. Ils les amenèrent aux prêteurs et dirent « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui proclament des coutumes qu'il ne nous est pas permis ni de recevoir ni de pratiquer à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, après avoir fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent de les battre de verges. Après les avoir roués de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les tenir sous bonne garde. Celui-ci, qui avait reçu cette recommandation, les jeta dans la prison intérieure. Il leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre, au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée. Il allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais aucun mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier demanda de la lumière, entra précipitamment et tomba, tout tremblant, devant Paul et Silas. Il les mena dehors et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Ils répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui, et à cette heure même de la nuit, lava leur plaie, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Il les fit monter dans sa maison, mit la table et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs. Les licteurs, c'est encore d'autres membres de la magistrature. Ce sont des officiers. Ils se déplaçaient toujours par deux. Ils étaient chargés de faire respecter l'ordre. Mais ils n'étaient pas armés. Pour dire au geôlier, relâche ces hommes, le geôlier rapporta ces paroles à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire de vous relâcher. Maintenant donc, sortez et allez en paix. Mais Paul dit au licteur, après nous avoir fait battre publiquement et sans jugement, nous qui sommes Romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant, ils nous mettraient dehors secrètement? Non pas. Qu'ils viennent eux-mêmes nous libérer. Les licteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs qui furent dans la crainte en apprenant qu'ils étaient Romains. Ils vinrent les apaiser et les libérèrent en les priant de quitter la ville. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie. Et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Donc, ce sont les premiers pas, comme j'ai dit, de l'Évangile en Europe et plus particulièrement en Grèce. Alors, comment est-ce que ça s'est passé? Paul avait un projet tout à fait différent. Il voulait revisiter les églises qu'il avait fondées et il a pu faire ça en partie, mais en cours de route, eh bien, le plan initial a été modifié et comme on l'a lu dans les versets 6, ils ont été empêchés par le Seigneur et au verset 7, l'Esprit de Jésus ne leur a pas permis. Pourtant, nous avons lu aussi, à la fin du chapitre 15, qu'ils étaient partis recommandés par les frères à la grâce du Seigneur. Donc, le plan prévu semble clair. Mais, bon, puisqu'ils ont été empêchés, alors, ils cherchent la route qu'ils doivent prendre. Ils continuent là, vers le nord de la Syrie. Ils arrivent jusqu'à Troas, au bord de la mer Égée, et c'est là que Paul reçoit la vision nommée l'appel du Macédonien qui disait « Passe en Macédoine, viens à notre secours ». Donc ils sont appelés à passer en Europe et ils se mettent tout de suite à rechercher un bateau. Ils embarquent et puis ils arrivent enfin en Europe, dans la ville de Philippe. Et puisqu'ils sont arrivés là où le Seigneur les avait finalement conduits, eh bien, ils se mettent à la recherche du Macédonien qui avait lancé cet appel au secours. Apparemment, à Philippe, il n'y avait pas de synagogue. Dans la ville de Philippe, apparemment, il n'y avait pas de synagogue. Dans le livre des Actes, on lit souvent que l'apôtre Paul, le sabbat, eh bien, il entrait dans la synagogue et il prêchait ou bien il était invité à prêcher. Ici, apparemment, il n'y avait pas de synagogue, mais qu'à cela ne tienne, puisqu'il avait reçu l'appel des Macédoniens, eh bien, on va chercher et on va voir. C'est ainsi qu'ils sont allés au bord de la rivière, pensant que là, ils trouveraient des personnes à qui témoigner. Et voilà qu'ils tombent sur des femmes. Ils tombent sur des femmes. Ça me fait bizarre de voir que Paul tombe à un endroit où il y a des femmes. Mais il s'adresse à elles et parmi elles, il y avait une dame du nom de Lydie. Alors, qu'est-ce qui nous est dit de Lydie? Eh bien, on l'a déjà lu dans les versets 14 et 15 et nous allons maintenant nous arrêter un peu plus longuement sur Lydie. Il y avait là une femme craignant Dieu. C'est la première chose qu'on dit d'elle. Alors, dans ma Bible, il y a un astérisque qui renvoie au glossaire qui est à la fin de ma Bible. Le glossaire, c'est un petit dictionnaire qui explique des mots qu'on ne connaît pas très bien, hein, comme les licteurs, les prêteurs. Il dit que c'est une femme craignant Dieu. Cela signifie que cette dame n'était pas une juive. Elle était avec des juifs au bord de la rivière, mais ce n'était pas une juive. Lydie, c'était une païenne. Elle venait de la côte opposée de la mer Égée. Elle venait d'un territoire qui s'appelait aussi la Lydie. Mais c'était une païenne qui avait été attirée par la foi juive. Et elle était en marche. Elle n'était pas encore entièrement convertie. Si elle avait été entièrement convertie, on aurait dit d'elle qu'elle était une prosélyte. Ça, ce sont des choses que j'ai lues dans le dictionnaire, le petit dictionnaire qui est à la fin de la Bible. Et Paul s'adresse à toutes les femmes. Mais parmi elles, il y en a une qui écoute d'une façon différente des autres. Tellement différente que l'apôtre, enfin, ce n'est pas l'apôtre, que Luc, qui a écrit le livre des Actes des Apôtres, a cru devoir le rapporter. Il était écrit donc qu'elle écoutait. Mais pour ça, on va revenir un peu plus loin. Ensuite, il est dit qu'elle venait de Thyatire, donc qui était en Asie mineure, et qu'elle était une marchande de pourpre. À partir de là, et à partir d'autres détails, eh bien, on peut penser que Lydie était une femme riche. Pourquoi peut-on penser cela? Parce que la pourpre, c'est quelque chose que j'ai lu dans le dictionnaire biblique, je ne suis pas savant. La pourpre est produite par un petit mollusque que l'on trouvait dans la mer Méditerranée. Et il est écrit qu'il faut 8000 petits mollusques pour obtenir 1 gramme de cette teinture pourpre. Donc c'était quelque chose de très coûteux. Et puisque cette teinture était tellement coûteuse, on ne l'appliquait évidemment que sur les étoffes la plus précieuse. Alors, il y a un autre détail qui nous permet de croire que Lydie était aisée, c'est qu'elle avait une grande maison. Parce que tout à la fin du chapitre, nous avons lu que dans sa maison, les frères se réunissaient. Et c'est là que Paul et Silas se sont rendus après leur libération de la prison. Donc c'était probablement une dame aisée. Ce ne sont pas les détails les plus importants. Les plus importants viennent maintenant. Donc au verset 14, nous avons déjà lu qu'elle écoutait et que sa qualité d'écoute était vraiment remarquable. Nous savons qu'il y a différentes façons d'écouter. On peut écouter simplement par politesse. On peut écouter aussi par curiosité. On peut écouter avec soif. Et c'est certainement avec soif que Lydie écoutait ce que Paul disait pour être remarqué de cette façon-là. Ensuite, il est dit que le Seigneur lui ouvrit le cœur. Elle écoutait tellement fort que le Seigneur lui a ouvert le cœur. Alors, on pourrait se demander maintenant, dans le salut de Lydie, quelle est la part de Lydie et quelle est la part du Seigneur? Eh bien, c'est clair. Il faut les deux. Il faut les deux. Il faut la part du Seigneur et il faut la part de la personne qui écoute, de la part de la personne qui entend le message. De son côté, Dieu a rempli sa part. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et Dieu a rempli son contrat en envoyant le Seigneur Jésus. Maintenant, et à la part de l'homme. Est-ce qu'il le veut? Lydie le voulait vraiment. Et elle a bu les paroles de l'apôtre Paul. Et le Seigneur lui a ouvert le cœur. Il faut l'association de la parole de Dieu et du Saint-Esprit qui ouvre le cœur. Nos arguments ne servent à rien pour ouvrir les cœurs. Par exemple, quand nous sommes revenus de notre voyage d'Israël il y a longtemps, je ne sais pas combien d'années, c'était en 71. On avait ramené des diapositives. Mes collègues m'avaient demandé de les projeter, comment ça s'était passé. Et ils avaient admiré, ils avaient admiré. Mais quand j'ai dit que tout ça c'est beau, les prophéties se sont accomplies, mais la parole de Dieu parle aussi de repentance, alors on m'a tout de suite dit, mais pour qui tu te prends, toi? Pour qui tu te prends? Il y a différentes façons d'écouter. Lydie a écouté de la façon qui convenait pour ouvrir son cœur. Qu'est-ce que nous lisons ensuite? Eh bien, nous lisons qu'elle s'est attachée à ce que disait Paul. Nous ne savons pas ce que Paul a prêché à cet endroit. On voudrait bien savoir. Hein? Ça devait sûrement être très bien. Mais en tout cas, Paul a dit clairement dans l'épître aux Corinthiens, dans la première, Paul a dit clairement ce qu'il prêchait. Ici, l'Église, elle a été inaugurée en 1991, mais elle existe depuis longtemps. Et dans l'ancien bâtiment, il y avait trois textes peints sur les murs. Et un des textes, c'était ce que Paul prêchait. C'était écrit en polonais. Mais la référence était indiquée et on pouvait le trouver si on ne comprenait pas le polonais. Il était écrit « Nous, nous prêchons Christ crucifié. » Et c'est sur le crucifié que l'apôtre Paul mettait l'accent. Alors, puisque Lydie s'était attachée à ce qu'il disait Paul, quelle était l'étape suivante? Eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été baptisée. Puisqu'on s'attache au Seigneur, l'étape suivante, c'est d'être baptisé en témoignage de son appartenance au Seigneur Jésus. En étant baptisé comme chacun de nous, eh bien, nous avons, comme chacun de ceux qui ont été baptisés, eh bien, on a pris position. On s'est compromis. Alors hier soir, j'ai regardé dans le dictionnaire qu'est-ce que ça veut dire exactement le mot compromis. C'est un mot qui est fort, hein? Se compromettre. Le dictionnaire dit que se compromettre, ça veut dire se mettre dans une situation critique en s'exposant au jugement, en jugement d'autrui. C'est se mettre dans une situation critique en s'exposant au jugement d'autrui. Pensons un peu encore à Lydie. C'était une païenne qui avait été attirée par la foi juive. Elle avait été admise au sein d'un groupe de femmes juives et elle était en marche pour devenir prosélyte. Elle a entendu l'évangile et elle a quitté ce groupe où on lui avait fait une faveur d'être acceptée en tant que païenne. Mais Lydie avait trouvé ce qu'elle cherchait. Et puisqu'elle avait trouvé ce qu'elle cherchait, elle avait trouvé celui qu'elle cherchait. Malgré qu'elle s'était mise dans une situation critique où elle s'exposait au jugement de ses anciennes compagnes. Elle a fait le pas. En Belgique, on pourrait dire, quand on prend position pour Jésus, qu'on ne s'expose pas. Mais ce n'est pas si sûr que cela. Dites aux gens de se repentir. Dites aux gens qu'ils doivent se repentir. Est-ce que c'est fini avec tout ce que le texte nous dit sur Paul? Eh bien non, ce n'est pas fini. En continuant la lecture, on dit que lorsqu'elle lui était baptisée avec sa famille, elle nous invita en disant, « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison, demeurez-y. » Et elle nous pressa instamment. Qu'est-ce qu'on voit là tout de suite? On voit que cette jeune foi commence déjà à produire du fruit. Elle veut déjà se rendre utile. On dira, c'est facile d'inviter Paul. Qui est-ce qui n'aimerait pas que l'apôtre Paul ne vienne ne fût-ce que prendre le thé ou le café, et s'y pouvait loger une nuit? Ah, l'apôtre Paul. Qui est-ce qui n'aimerait pas l'héberger? Mais ce n'est pas si sûr que ça, que c'était facile. Dans le chapitre suivant, au chapitre 17, eh bien, celui qui avait reçu Paul dans sa maison, il s'appelait Jason, et il a déjà eu des soucis. On est venu l'arrêter chez lui, l'arracher, on l'a mis en prison à lui aussi. Et parce qu'il avait hébergé Paul, il avait dû payer une rançon afin d'être libéré. Inviter Paul, c'était facile, mais le Seigneur Jésus dit qu'il y a aussi les petits, il y a aussi les pauvres. Et dans l'évangile de Luc, je crois que c'est au chapitre 14, il dit, quand tu invites quelqu'un, n'invite pas tes amis, tes frères, tes sœurs, tes parents. Invite les pauvres, les malheureux. Invite ceux qui ne pourront pas te rendre l'appareil. Je suppose que Billy Graham n'a jamais eu de problème d'hébergement quand il voyageait. Mais c'est toujours un privilège de recevoir un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, un frère, une sœur chez soi. En préparant, d'abord c'était la méditation en raccourci que nous avions faite à la réunion de prière à la maison, et j'avais pensé à notre frère, à notre sœur, qui avait hébergé la famille missionnaire, les meilleurs de Madagascar, qui a hébergé les représentants de Porte Ouverte. On est toujours enrichi quand on reçoit des serviteurs de Dieu ou d'autres chrétiens. Mais avec tout ça, Paul et Silas n'ont pas encore trouvé le Macédonien. Pourtant, ils étaient partis à sa recherche. Bon, ils avaient trouvé Lydie, c'est bien, une femme remarquable. Mais Lydie, ce n'était pas une Macédonienne. Elle venait d'Asie. Et l'appel, il venait d'un Macédonien pour qu'il vienne à leur secours. Alors, pour enfin trouver le Macédonien, eh bien, il faut retourner chez Lydie. Il faut retourner chez Lydie. Et on va y retourner dans le verset 40 du chapitre 16, où il est dit, « Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie, et après avoir vu et exhorté les frères. » Quand Paul et Silas furent sortis de prison, ils entrèrent chez Lydie. Nous avons lu ce qui avait emmené Paul et Silas en prison. C'est parce qu'il y avait cette femme, hein, qui disait, une femme qui avait un pouvoir de divination et qui perturbait vraiment Paul. Et Paul, au nom du Seigneur Jésus, avait délivré cette femme possédée. Paul et Silas sont allés en prison parce qu'ils avaient exercé la miséricorde envers une femme qui était possédée par un esprit malin. Les maîtres de cette servante avaient invoqué des motifs religieux. « Il ne nous est pas permis, disait-il, de pratiquer cette religion. Mais moi, je suis certain que ce n'était pas ça le problème. Le problème, c'était qu'ils perdaient l'argent que la servante leur apportait. C'était l'appât du gain qui les avait fait accuser, qui les avait fait mettre en prison. Donc, ils sortent de prison, ils entrent chez Lydie. Ils voient les frères et ils les exhortent. Maintenant, je vais encore une fois broder, comme je brode parfois quand il m'est demandé d'apporter la prédication. Et j'espère que vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ce que je vais broder. Et si vous n'êtes pas d'accord, je vous comprendrai. Mais on va quand même réfléchir. Qui pouvait être présent chez Lydie? Qui pouvait être ses frères à qui Paul et Silas se sont adressés avant de continuer leur route? On peut être sûr que Lydie et sa famille étaient là. On peut être sûr aussi que Paul et Silas étaient là. Timothée, qui les accompagnait, nous avons lu, chapitre 16, verset 1, depuis Lystre. Probablement Luc était là aussi, puisque c'est lui qui dit nous et qui écrit le récit. Maintenant, est-ce que c'est possible que la servante qui a été délivrée du démon ait pu être là aussi? Pourquoi pas? Dans l'Évangile, il y a un précédent. C'est qui? C'est Marie-Madeleine, de laquelle le Seigneur avait chassé sept démons et qui s'était tout de suite mise, elle aussi, à servir le Seigneur et qui faisait partie du groupe de femmes qui assistaient le Seigneur Jésus de leur bien. Marie-Madeleine, qui après avoir été possédée et libérée, suivait et servait le Seigneur, que l'on retrouve au pied de la croix, et que l'on retrouve devant le tombeau où on avait déposé le Seigneur Jésus. Peut-être que cette femme délivrée, devenue une sœur, était là. Qui pouvait être encore là? Est-ce possible que le geôlier, avec sa famille qui avait accepté le Seigneur et qui avait été baptisé, est-ce possible qu'il soit là? Est-il impossible qu'il n'aurait pas voulu saluer avant son départ celui qui avait amené le salut dans sa maison? Eh bien, le voici. Le Macédonien, un des Macédoniens, duquel l'apôtre Paul avait reçu l'appel et auquel il avait répondu. Donc je répète que je viens de broder, mais ce n'est pas impossible que parmi les frères qui étaient réunis dans la maison de Lydie, eh bien il y avait ces personnes-là. La servante libérée, ainsi que le geôlier et sa famille. Les deux derniers mots que nous avons lus, c'est quoi? Dans ma Bible, il est écrit, les deux derniers mots de notre lecture, c'est « ils partirent ». Ils partirent. Et puis quoi? Qu'est-ce qu'ils laissent derrière eux? Paul et Silas sont partis. Mais qu'est-ce qu'ils laissent derrière eux? On vient de le voir. Il laisse une grande bénédiction. Il y a Lydie, il y a la servante, il y a le geôlier. Beaucoup de joie sur la terre et beaucoup de joie dans le ciel. Aussi des rugissements de rage, parce que c'est autant de personnes que le diable n'a plus à dévorer. Mais si Paul a amené des gens au Seigneur, comment est-ce que ça s'est passé? On l'a lu. Si Paul a amené des gens au Seigneur, c'est parce qu'il est allé vers les gens. Il n'y avait pas de synagogue dans la ville de Philippe. Eh bien, il est allé ailleurs. Et à la rivière, il a trouvé des femmes. Et parmi les femmes, il y avait Lydie. Nous sommes contents quand nous voyons des gens venir pour la première fois dans l'église. Mais le commandement, c'est pas ça. Le commandement du Seigneur, c'est aller. Et c'est ce que l'apôtre Paul a fait. C'est quelque chose, nous sommes allés. Nous ne sommes pas à zéro, n'est-ce pas? Aller vers les gens. Nous l'avons fait un peu, mais certainement trop peu. Jacques nous a dit que quelques-uns continuent à le faire. Ils ne le crient pas sur les toits. Ils ont rencontré des personnes. Et c'est à nous à les porter dans notre prière et à notre tour aussi d'aller vers les gens et à mon tour aussi. On pourrait aussi parler du prix payé par Paul et du prix à payer pour le salut de quelqu'un. Alors je vous ai dit que une fois de plus j'ai tiqué en lisant les versets 6 et 7 où le Saint-Esprit ou l'Esprit de Jésus les empêche de continuer leur itinéraire d'évangélisation. Nous tiquons parce que nous ne connaissons pas le bout du chemin. Le Seigneur veut que nous le découvrions après chaque pas d'obéissance. Le Seigneur ne nous montre pas, si, la Jérusalem céleste, ça il nous le montre, mais les intermédiaires, il nous les fait découvrir petit à petit. Donc si un projet à un moment donné bloque quelque part, et si notre rêve ne se réalise pas, alors comme Paul et Silas, sachons accepter de prendre une autre direction. Sachons bifurquer là où l'Esprit nous demande d'aller. Et si Paul et Silas ne s'étaient pas laissés détourner, s'ils s'étaient obstinés à aller là où ils voulaient aller, là où ils voulaient aller quand ils étaient partis en mission, eh bien, il n'y aurait pas eu de Macédoniens, ils ne l'auraient pas trouvé, il n'y aurait pas eu de servantes libérées, il n'y aurait pas eu de Lydie sauvée. Cette Lydie qui est la première convertie d'Europe, je me demande si elle ne nous est pas offerte comme un modèle de foi. Un modèle à cause de sa qualité d'écoute. À cause de sa qualité d'écoute. Elle nous fait penser à Marie qui écoutait au pied du Seigneur. Marie qui avait choisi la bonne part. Lydie écoute si attentivement ce que disait Paul. Parce que Lydie a découvert le berger et la brebis qu'elle est, elle écoute la voix du berger. Quelques chapitres plus loin, j'en ai une fois parlé au G30, aux hommes, dans le chapitre 20, il y a aussi quelqu'un qui était là au pôle prêcher. C'était Eutychus. Une façon d'écouter. Cet homme qui écoutait, il s'appelait Eutychus, mais écoutait-il vraiment? En tout cas, s'il écoutait, il n'écoutait pas de la bonne façon. Et puisqu'il n'écoutait pas de la bonne façon, Eh bien, elle est tombée dehors. Elle y dit, elle écoutait de la bonne façon. Et le Seigneur lui a ouvert le cœur. Lydie s'est attachée au Seigneur. Alors nous pourrions nous demander quel est notre attachement à nous au Seigneur. Est-ce que c'est l'attachement des lèvres ou bien par imitation? Ou bien est-ce que c'est l'attachement du cœur? Et puisqu'elle s'était attachée, elle a été baptisée. Elle s'est mise dans une situation critique en s'exposant au jugement des autres. Est-ce que c'est quelque chose qui nous arrive? Par notre réaction face à certaines injustices, de nous mettre dans une situation critique parce que nous avons accepté le Seigneur. Lydie a tout de suite porté du fruit en ouvrant sa maison. Et Lydie, elle a ouvert sa maison parce que d'abord, son cœur a été ouvert. Alors, chacun de nous peut déduire la question relative à cela. Mais pour Paul et Silas, quel soulagement de pouvoir, à leur sortie de prison, entrer dans une maison aussi accueillante que la maison de Lydie. Étranger dans la ville de Lydie, ne connaissant personne, sortir de prison, mais où aller? Ah, Lydie nous a tellement bien reçus. Lydie nous a tellement bien accueillis. Il n'y a pas de problème, on peut aller chez elle. Que c'est bon de trouver une maison qui vous accueille quand il y a un souci. Que c'est bon de trouver une oreille, un cœur qui écoute quand ça va mal. Parce que, faut-il le dire, souvent c'est plus facile de tomber sur une bouche que sur un cœur ou sur une oreille qui écoute. Donc on peut dire que cette Lydie, c'est une perle. Et l'œuvre de Dieu a besoin de ces perles. Et par la grâce de Dieu, dans l'histoire de l'Église, il y en a eu des perles. Je suis allé 3 ans au Congo. J'étais enseignant. J'en ai profité pour visiter plusieurs stations missionnaires. Et souvent, je me suis dit, où sont les hommes? Dans plusieurs stations missionnaires, il n'y avait que des femmes. Sur certaines, il y avait aussi quelques hommes, mais c'était vraiment en minorité. Je vais vous raconter juste un fait qui m'a marqué. Il y avait un genre d'atelier en Afrique. Les constructions, c'est quand même plus facile, hein. On n'a pas à se protéger du froid ni de la pluie, sauf en saison des pluies comme ici. Mais enfin, l'atelier, c'était 4 piliers, un toit de chaume. Il y avait une table, il y avait une missionnaire et il y avait un Congolais. Sur la table, il y avait, je peux dire, un plan. C'était le plan d'une chaise. Il y avait déjà des morceaux de bois découpés, les pieds arrière de la chaise, les pieds avant. Et il y avait une missionnaire qui tenait un bédane, Ernest vous expliquera ce que c'est, et un maillet. Et elle expliquait aux Congolais comment faire pour creuser une mortaise, comment faire un tenon pour construire une chaise qui tienne. Ce sont des perles. Ce sont des perles. Et des perles, par la grâce de Dieu, il y en a aussi dans votre Église. Mais des perles, il n'y en a jamais de trop. Des perles dans l'Église, des perles dans l'œuvre de Dieu, il n'y en a jamais de trop. Alors après tout cela, qu'est-ce qu'on va se souhaiter l'un à l'autre? Qu'est-ce que je vais me souhaiter à moi? Eh bien, on va reprendre ce que nous avons vu au sujet de Lydie. Que le Seigneur nous fasse la grâce d'avoir cette grande qualité d'écoute pour accepter ce qu'il nous dit. Avoir un cœur ouvert à ce qu'il nous dit. Nous attacher au Seigneur. Ne pas craindre de nous compromettre pour le Seigneur, c'est-à-dire de nous mettre dans une situation critique. Pas la rechercher, bien sûr, mais si c'est nécessaire, ne pas craindre de nous mettre dans une situation critique. Et porter du fruit, par exemple, en ouvrant notre maison. Mais il y a 1000 manières différentes de porter du fruit dans l'œuvre du Seigneur. Maintenant, nous allons chanter le cantique numéro 112 des recueils de l'Église, si vous voulez bien.